Un sentiment de vie. De Claudine Galéa. Une danse. Ce jour-là, tout arrive. Histoire de père. Depuis longtemps derrière. Père depuis longtemps derrière. Plus fille. Fille de personne. Sera celle qui n'a plus de lignée. Ce jour-là, maintenant, ongle se casse, se dédouble. Laisse doigt à nu. Maintenant, passé l'âge de mère, grand-mère, toutes ces hypothèses ont... La lignée a... D'où sortent ces lignes? Sortent quand même. Écris avec ce qui reste. Sois ton propre nu. Ligne devenue ton propre nu. Prose, langue vivante. Hante. Frappe à la verrière. Es-tu un fantôme? Cogne. Insiste. Gratte. Une ligne. Une phrase. Phrase en anglais se dit sentence. En français, sentence sonne comme danse. And now, phrase et danse. My Secret Garden. Je voulais écrire sur mon père depuis longtemps. Écrire sur mon père, My Secret Garden. C'est Falk qui m'a donné l'élan. Il a ouvert la porte du jardin secret. Le mien, c'est mon père. Je ne pourrais pas appeler mon texte My Secret Garden. C'est dommage, puisque c'est le titre du texte de Falk. Je vais dire Falk, comme si je tutoyais Falk, comme si je connaissais Falk, alors que je l'ai juste croisé dans un hôtel à Strasbourg. Maintenant, je lui parle. C'est une manière de parler de lui, on sait bien que les auteurs ont d'étranges manières. My Secret Garden est le premier texte que j'ai lu de Falk, et je l'ai aimé. Falk Richter est allemand, je suis française. Il parle de ce dont parlent les auteurs de théâtre, du monde et de ce que le monde fait de l'histoire avec un H majuscule et de l'histoire avec un H minuscule. La minuscule est aussi majuscule, et la majuscule nous entre dans le corps aussi bien que la minuscule. Les livres font partie de l'histoire. Les livres sont des histoires minuscules et majuscules. Les histoires nous parlent de nous et nous entrent dans le corps. L'histoire de Falk n'est pas la mienne, mais son histoire parle à mon histoire, ça se mélange. J'aime quand ça se mélange, quand c'est impur. C'est comme ça qu'une nouvelle histoire commence. My Secret Garden, j'y suis entrée comme dans un vêtement qui m'allait. Un vêtement emprunté à un autre, dans lequel on se sent bien, on se sent soi-même. La même et pas la même. Un soi-même nouveau. On emprunte un vêtement, et voilà, on se sent soi-même sans emprunt, soi-même augmenté. Ça m'était déjà arrivé avec un amant. Après l'amour, il m'avait passé un jean à lui pour aller dans la forêt. Passer, enfiler ce jean un peu grand à la taille, un peu long, mis une ceinture, retrousser le bas. Je me sentais formidablement bien dans ce jean. C'était le jean de l'homme que je venais d'aimer, qui venait de m'aimer, qui m'avait fait jouir. Je me sentais belle, aimable. Je jouissais d'être cette personne dans ce jean. J'étais une femme pleine d'un homme dans ce jean. Je ne m'étais jamais aussi bien sentie dans un jean. Des années après, j'ai encore la sensation de celle que j'étais dans ce jean. My Secret Garden, une belle passe. J'entrais dans le texte de Falk avec jubilation, jouissance, dans le djinn de My Secret Garden, le djinn de Falk. J'aime que Falk soit un homme. J'aime ça quand j'écris. J'aime être moi et lui. On dit « elle », on dit « il », et c'est toujours « je ». Un « je », un djinn unisexe. Dans la mode, on dit ça, unisexe. Je préfère dire « bi », bisexe. Je n'aimerais pas changer de sexe dans la vie. J'écris « j'entre dans le corps que je veux, de qui je veux. Je prends le corps de qui je veux, c'est my secret garden ». Écrire a toujours traversé les genres, baisé les frontières. Un jour, j'ai inventé « elle-je ». Mais « elle-je » reste féminin. On est double quand on écrit. On est duel. Le duel des grammaires anciennes indo-européennes. Le duel persiste en tahitien, en slovène, en arabe. Un duel qui garde le singulier dans le pluriel. Donc, Falk... J'aimerais bien écrire sur mes parents, même si ça m'est difficile. Je désire écrire sur mon père, ou plutôt pour lui, ou plutôt dans le corps de mon père. C'est difficile, mais c'est possible. C'est « my secret garden », c'est la littérature. J'emprunte le corps de mon père, c'est freestyle. Le jazz était en train de devenir freestyle à l'époque de mon père, même si mon père l'ignorait. Mon père ne jurait que par Franck. C'était son jardin secret, Franck. Oui, tous les corps sont des corps d'emprunt, à commencer par son propre corps. Qui est soi-même quand elle écrit, quand il écrit ? On écrit parce qu'on n'est pas soi-même. Qui est soi-même, seulement soi-même ? Personne. Quand on écrit, on le dit. On est soi-même une autre, un autre. On passe outre. Falk Richter écrit
Mein Vater.
Mon père.
Auch ein möglicher Titel für dieses Stück.
Encore un titre possible pour cette pièce. Falk n'est pas tendre avec son père. Moi, je suis tendre. Il faut que je sois tendre avec mon père. Si on n'a pas de tendresse pour aucun des parents quand on est un enfant, on devient folle, meurtrière. Moi, je suis tendre avec mon père. Meurtrière avec ma mère. Falk, c'est le contraire. En Allemagne, son père n'était pas du bon côté pendant la guerre. Le mien a quitté l'armée pour ne pas avoir à tirer sur ses amis pieds noirs en Algérie. Il y a des bons et des mauvais côtés dans toutes les familles, dans toutes les histoires de famille et les autres. Je n'aime pas bon côté, mauvais côté. Je n'aime pas ce jugement sommaire, cette exécution sommaire. Les histoires ont toutes des logiques. Il y a des logiques biographiques haïssables. Haine et amour, oui. Bon et mauvais côté, non. C'est trop parental, tu as bien fait, mal fait. C'est trop scolaire, tu es bonne, tu es mauvaise. Finis avec ça, le bien, le mal. La logique n'est pas générale. Elle n'est pas abstraite. Elle est affaire de personnes. C'est la responsabilité des personnes. Les personnes aiment ou haïssent, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Et même, on peut haïr et aimer en même temps. Haïr d'un côté, aimer de l'autre. Attaquons les rapports parents-enfants, Falk. Cette relation de peur, agression, étrangeté entre les générations, les coups que les parents portaient sur leurs enfants, les coups pour leur inculquer l'obéissance, l'ordre et la discipline, parce que la seule image qu'on avait de la société était l'armée. Et si cette pièce s'appelait
«
Histoire allemande » ? Mon père, militaire. Ma mère, antimilitariste. Ma mère, anti-mon père. Elle l'a épousé pour mieux le haïr. Mon père, un petit colon d'Algérie sans le sou. Ma mère, anticolonialiste. Mon père, anticommuniste. L'un, viscéralement anticommuniste. L'autre, viscéralement anticolonialiste. Je suis issue de ces deux personnes. Le militaire ne frappait pas, l'antimilitariste, oui. Et si cette pièce s'appelait « Histoire française » ? Toutes les Françaises ont quelque chose à voir avec l'Algérie pour encore une ou deux générations. Après, on pourra dire que c'est soldé, sauf que rien n'est jamais soldé. Tout se transmet dans l'inconscient de génération en génération. Génération de haine, génération d'amour, génération d'amour-haine, l'inconscient viscéral. Les Français et les Françaises ont quelque chose à voir avec les coups. Encore trop de Françaises et de Français, et de coups et de viscères. Les viscères, toujours les viscères. Si ce n'est pas de la haine, de l'amour muté en haine. Ça se passe dans le ventre de ma mère, dans le ventre de son père. Les femmes ne sont pas les seules à avoir un ventre, à laisser parler leur ventre. En finir aussi avec cette image idiote de la femme et de son ventre, et de l'homme et de ses couilles. On écrit avec ce qui est visible et ce qui est invisible. On écrit avec le conscient et l'inconscient. On écrit avec son ventre et ses couilles. Les jeunes aujourd'hui disent « t'as du clito ». On a du clito et des couilles. Donc, Falk Richter écrit « My Secret Garden ». Son père, sa mère, une famille normale qui habite dans un appartement témoin que visitent des clients potentiels.
Wenn die hier nichts kaufen, liegt das an Ihnen.
S'ils n'achètent rien, c'est de votre faute.
Die Kunden kaufen ja ein Lebensgefühl.
Les clients achètent un sentiment de vie. Un sentiment de vie.
Un sentiment de vie.
Voilà un titre pour ce texte commencé avec Falk. Falk s'arrête souvent sur des mots qu'il écrit. Il ne s'arrête pas sur un sentiment de vie, c'est normal, c'est logique, car 10 pages plus loin, il écrit
« Wenn ich eines von meinen Eltern gelernt habe, dann das.
Si j'ai appris une chose de mes parents, c'est bien ça.
Zeig niemanden deine Gefühle,
ne montre tes sentiments à personne et travaille beaucoup. » Et il ajoute
und da bin ich nun.
Et j'en suis là maintenant.
Was für ein Leben.
Oh, quelle vie. Falk est un garçon. Un garçon ne montre pas ses sentiments. En tout cas, lui, et la génération de lui, avec un père comme il en avait lui. Mon père est devenu fragile quand il a eu son cancer. Il pleurait souvent, il avait honte de pleurer. Un homme et un soldat ne pleurent pas. Papa. Les filles montrent leurs sentiments. On pourrait penser qu'au moins elles n'ont pas subi la rétention qu'ont subi les garçons. Sauf que, génération après génération, réduite à ça, les filles sont sentimentales. Pleurez les filles. Pleurez, parce que vous avez des sentiments. Aimez et pleurez. Un sentiment de vie.
Un sentiment de vie.
Oui. Ce sera mon titre pour le texte que j'écris pour Falk, que j'écris pour moi. Écrire pour, c'est quoi ? C'est faux, écrire pour. On écrit avec. Avec soi et avec l'autre qui est là dans ce qu'on écrit. Aujourd'hui, c'est My Secret Garden. On écrit avec My Secret Garden. On écrit dans le texte de l'autre, dans le corps de l'autre, dans le jean de l'autre. J'ai lu My Secret Garden il y a plusieurs années, et alors j'ai su que j'écrirais avec mon père, dans le corps de mon père, dans le corps de l'histoire de mon père, dans le corps de l'histoire où vivait mon père. Mais c'est maintenant. Maintenant que je choisis My Secret Garden, que j'emprunte à Falk des phrases et un titre, que je me glisse dans le vêtement des mots de Falk comme dans le jean d'un homme. C'est maintenant que je sais que je peux me glisser dans le corps de mon père, dans ses mots haïs, dans ses mots aimés.
Du tust alles, was in deiner Macht steht.
Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, dit Falk. Le pouvoir d'écrire et le travail d'écrire, parce que c'est du travail. Et tu ne peux pas travailler sans montrer tes sentiments. Et c'est pour ça que tu as écrit My Secret Garden, Falk. Tu montres tes sentiments. Et ça fait un sacré putain de sentiment de vie. Il n'y a pas de texte sans sentiment de vie. Nous les Allemands, nous les Françaises. Pour ne pas être victime de ces sentiments, faut les montrer. Faut s'en servir.
Und wenn dieses Stück hier ein besseres Leben heißen würde?
Et si cette pièce s'appelait Une vie meilleure? Non, Falk, ça s'appelle Un sentiment de vie. C'est ce qu'on peut faire. Écrire un sentiment de vie. Un putain de sentiment de vie qui donne de la force, du courage, du désir. Je ne sais pas si écrire rend la vie meilleure. J'en doute, toi aussi tu en doutes. Mais c'est pas demain la veille la vie meilleure. Bullshit la vie meilleure. I don't give a shit. Je le dis en anglais. On a l'anglais en commun, toi et moi. La première génération à avoir biberonné à l'anglais via les Américains. Encore une histoire de guerre, de libération. De guerre ou de libération? Bullshit. Comment tu dirais en allemand? L'un viscéralement anticommuniste, l'autre viscéralement anticolonialiste. Je suis issu de ces deux personnes. Issu, Falk. Entrée ou sortie? Je me le demande. Entrée et sortie, Falk. Ce n'est pas le « et » de la réconciliation. C'est le « et » qui passe outre la réconciliation, la vie meilleure et tout ce fucking bullshit. Outre le fait que les garçons ne pleurent pas et que les filles ne sont pas faites pour se battre. Outre la nature, Falk. The fucking nature, Falk. Écrire, c'est outrer la nature. Tu le sais, je le sais. Tu écris avec ça. J'écris avec ça. Pour outrer les viscères. Pour créer un sentiment de vie. Un sentiment de vie ne s'achète pas. Plus jeune, j'ai acheté le corps de l'amour. J'ai payé des hommes. À ce moment de ma vie, le corps de l'amour, c'était les hommes. Le corps de l'amour, ça ne s'achète pas. C'est parce que ça ne s'achète pas que ça reste beau. On peut toujours se glisser dedans. Je me glisse dedans. Je t'emprunte un sentiment de vie. Je te le prends. Je prends un peu de toi dans le gin de My Secret Garden. Ne soyons pas empruntés. On n'est pas empruntés quand on écrit. Nous n'étions pas une famille normale. Faire comme si on était une famille normale. Un père, une mère, une enfant. Un sentiment de vie. Une histoire française. Un père né en Algérie, de parents nés en Algérie. De grands-parents nés en Algérie. Une mère née à Tanger. Sa sœur aînée, née à Tanger. Normalement, elle serait devenue ma tante. Mais rien n'est normal. Rien dans les familles, dans les histoires. Ma tante, qui ne deviendra jamais ma tante, subit un contrôle de papier par les soldats allemands 2 ans avant la fin de la guerre. Est rentrée, s'est couchée avec de la fièvre, ne s'est plus jamais relevée. Son père, mon grand-père, un résistant, disparu en mer. Le bateau et tout l'équipage disparu quelques années après la fin de la guerre. Disparu ou arraisonné par le gouvernement franquiste? Une affaire de guerre, de sale guerre. Les guerres sont sales, toutes les guerres. Un secret classé défense. Le sale laisse des traces. Avec ça qu'on écrit. Avec ce qui est sale et n'est jamais classé. Je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé. Une sale passe. On parle de la même guerre, toi et moi, Falk. La guerre qui a laissé des traces dans nos vies. On n'a pas connu la guerre, mais les traces de la guerre, c'est encore la guerre. On écrit avec les traces qui sont sales et qui font la guerre. Tu es un enfant de la guerre après la guerre. Et moi, je suis peut-être bien une enfant de la guerre. Suis-je née en France ou en Algérie, Falk? J'ai toujours pensé que j'étais d'Algérie, issue de là, de cette putain de sale guerre. Et si je suis née en France, je suis née de l'autre guerre, celle qui a tué ma tante et mon grand-père maternel. Secret défense de génération en génération. Les secrets se transmettent jusqu'à ce qu'ils meurent eux aussi, disparaissent. Et l'histoire meurt aussi. L'Algérie, l'OAS, le FLN, les SS, les collabos, tout ça finira par disparaître. tout est déjà remplacé en horreur, en guerre, en crimes qui laissent des traces, d'autres traces, les mêmes sales guerres, les mêmes sales traces. Nous n'étions pas une famille normale, et l'histoire ne l'est pas non plus. L'histoire n'est pas normale, et l'écriture non plus. Écriture ne rime avec rien, sauf avec impur. Les phrases sont les traces des sales passes. Normal n'existe pas. As-tu déjà vu normal laisser des traces? Un canular, une blague, normal et pur, un grand éclat de rire, pur, pur et normal, ha ha! Fucking bullshit normal. Qui est addict à normal? Tout le monde est addict à quelque chose. Les séries télévisées ne parlent que de ça. Pas un seul écran avec une image normale. Seul l'anormal est addictif. Seul l'anormal se vend, pourvu qu'il prenne l'apparence d'une histoire, pourvu qu'on croit que c'est de la fiction. La fiction, c'est normal. Addictif et normal. La fiction n'est pas la vie. Dans la vie, tout est si atrocement triste et solitaire.
Alles ist so entsetzlich traurig und einsam.
Pourvu qu'on ne soit pas pris la main dans le sac à questionner la fiction, à se demander si c'est la fiction qui rattrape la vie ou la vie la fiction, car tout est triste et solitaire.
Alles ist traurig und einsam.
Et vivant. D'où vient ce sentiment de vie, ce putain de sentiment de vie, tout cet impur, tout cet anormal sentiment de vie, le corps en branle et l'esprit en branle, fille et garçon, garçon et fille en branle, tout ce bordel de mots bisexes, ce sentiment de vie, de jouissance, toute cette fucking beauté après laquelle on court, après laquelle on écrit. À la fin de My Secret Garden, Falk, tu écris...
Irgendwann sollte dieses Stück bei so etwas wie Schönheit
à un moment, cette pièce devrait aboutir à quelque chose qui ressemble à la beauté, au pardon.
Aber ich weiß nicht, wie das geht.
Mais je ne sais pas comment faire. Moi non plus, je ne sais pas comment faire, Falk. Tu écris...
Und wir sehen jetzt ein Kind.
On voit un enfant, un jeune garçon courir.
Einen Jungen, der läuft.
Tu parles d'un autre jeune homme dans un livre allemand. Il s'appelle Lenz. Il est en fuite, en lui une urgence. Il cherchait quelque chose comme des rêves perdus. Tu parles beaucoup de lui, un peu de toi, de tous les jeunes hommes perdus dans l'histoire allemande. Lenz est un jeune allemand du 18e siècle. Il écrit comme toi. Et c'est un autre jeune homme allemand qui rapporte son histoire, un siècle plus tard, à nouveau un grand dramaturge allemand, Georges Büchner, un socialiste, un révolutionnaire. C'est l'histoire des jeunes hommes allemands en colère, telle que tu la reçois quand tu découvres la littérature. Le jeune homme court et perdu. Ce jeune homme, c'est tous les jeunes hommes encore aujourd'hui, encore un peu plus perdus. Est-ce que toi, tu étais perdu? Il cherchait quelque chose, comme des rêves perdus. Elle cherchait quelque chose, comme des rêves perdus. Une jeune fille au milieu des années 70, une jeune fille française. Elle court pieds nus. Elle s'est enfuie de la famille normale, de la maison normale, où tout paraissait normal, où rien ne l'était. Elle court un matin d'été dans une ville normale. Son histoire à elle, c'est Albert Camus. Elle n'aime pas Sartre, elle aime Camus, à cause de la lumière et de la déchirure. Son histoire française, c'est Ingeborg Bachmann et Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Marina Tsetaeva, Virginia Woolf. Son histoire à elle, c'est les êtres seuls, les êtres insatisfaits, inadaptés, les êtres passionnés et perdus. Elle court vers quelque chose, vers quoi? Le ciel et la terre fondent, c'est un arc électrique qui brûle. Quelque chose la poursuit, une chose atroce, une chose que les hommes et les femmes ne sauront supporter, comme si la folie la poursuit. Tout est si atrocement triste et solitaire. Et vivant. Tout est si vivant. Elle a 17 ans. Elle veut y arriver. Elle court vers quelque chose. Vers quoi ? Elle ne sait pas. Elle veut y arriver. Elle court vers la lumière, vers un sentiment de vie et de beauté. Et Falk dit...
Sag, dass all das hier nicht meine Schuld ist.
Dit que ce n'est pas de ma faute si je laisse tout en l'état.
Wenn mir die Kraft ausgeht und
si je perds mes forces et que je ne suis plus là pour toi, plus là du tout. Dis que plus rien ne va rester de cette époque où nous vivons aujourd'hui, sauf moi, qu'il restera quelques phrases. Quelques phrases et la tension d'y arriver comme Lenz. Et il recopie deux pages de Lenz, le jeune homme que personne ne pourra sauver. Qui t'a sauvé, Falk ? Est-ce que quelqu'un t'a sauvé ? Est-ce que c'est Lenz ou Büchner ? Ou quelqu'un d'autre dans la vraie vie ? Qu'est-ce que la vraie vie ? Est-ce que la vraie vie sauve ? Est-ce que les livres sauvent ? Est-ce qu'on sauve jamais personne ? Est-ce que les livres savent ? Est-ce qu'ils sauvent ? Büchner n'a pas sauvé Lenz. Lenz, quand même, est resté. Quelques phrases à propos de Lenz sont restées.
Lieber Freund,
cher ami,
wir lieben Sie.
Nous vous aimons.
Sie lieben uns.
Vous nous aimez, dit le pasteur Oberlin à Lenz, qui est en train de devenir fou de solitude. Car tout est si... Cher ami,
lieber Freund,
nous vous aimons.
Wir lieben Sie.
Vous nous aimez.
Sie lieben,
dit Oberlin, qui laisse partir Lenz dans la voiture de la solitude et de la souffrance. Est-ce qu'on n'aime jamais personne ? Tout est si... Est-ce qu'on n'aime jamais personne assez pour le, pour la sauver ? Et Lenz court à travers la montagne vers ce putain de sentiment de vie qui échappe, qui nous échappe. Cours toujours, cours encore. De My Way.
Tu vois,
dit mon père,
maintenant je pleure. Maintenant je ne suis plus bon à rien et je pleure. Je ne me reconnais pas.
Il a 76 ans. Un crabe lui ronge le palais et il pleure.
Maintenant nous allons à l'hôpital. Ma fille m'emmène en voiture à l'hôpital. Je suis en voiture avec ma fille et je pleure. Cela fait des mois que nous allons à l'hôpital pour me faire faire des dents. Maintenant, je suis sans dents. Ils m'ont opéré et quand je me suis réveillé, je n'avais plus de dents. Plus une seule. Alors maintenant, chaque semaine en voiture avec ma fille, direction l'hôpital. Voilà à quoi je ressemble. Des larmes et plus de dents. Est-ce que c'est sans rapport ?
Il me demande.
Est-ce que c'est sans rapport ?
Mais je n'ai pas entendu le début de la phrase. Le début de la phrase, il ne l'a pas dite. Et je ne réponds pas. Parce que je ne sais plus si les choses doivent avoir un rapport entre elles pour exister. Et je ne suis pas sûre non plus qu'il me l'ait vraiment demandé. Ce que je sais maintenant, c'est que je peux écrire sur mon père, autour de mon père, avec mon père, même si ça m'est difficile. Et depuis le temps que je veux écrire sur toi, papa... Je sais maintenant comment je vais commencer. Je vais commencer comme ça a commencé. par cette chanson. Cette chanson qui m'arrive régulièrement depuis ta mort. Depuis 18 ans, la chanson m'arrive et les larmes arrivent.
J'en suis là, maintenant. Quelle vie ! Jamais je n'ai pleuré. Pourquoi j'aurais pleuré ? Je ne sais pas ce que c'est que ces larmes qui m'arrivent. Ça m'arrive, ça déborde, et je ne contrôle plus rien. Je ne suis plus l'homme que j'étais, je ne suis plus un homme.
Je ne peux pas faire autrement que commencer par les larmes et par cette chanson. Dès que j'entends cette chanson, c'est lui que j'entends. La chanson, la voix de mon père, et aussitôt les larmes. Je ne pleure pas de tristesse, je pleure d'amour. Est-ce que c'est différent ? Ça ne prévient pas les larmes et l'amour. C'est l'amour qui sort, un flot d'amour et de larmes. C'est un peu décalé dans le temps, n'est-ce pas, papa ? À qui adresser ces larmes, tout cet amour, maintenant ?
Il ne m'avait pas prévenu. Un trou dans le palais, et hop, plus de dents.
Le chirurgien avait dit, il y en a pour 6 ou 7 heures si tout se passe normalement. Depuis le matin, on était à l'hôpital. Une famille normale, à l'hôpital, qui attend. Ça a duré 12 heures. On s'inquiétait. On nous disait, tout est normal.
On m'a charcuté un bon moment. Moi, j'étais dans le gaz. Alors, j'ai pas vu passer le temps.
Ils lui ont pris toutes ses dents. Normal.
Maintenant, j'ai un bouchon dans le palais et 0 dents. Maintenant, on me nourrit par sonde.
Ils enlèvent toutes les dents et c'est normal. Fucking normal.
À l'armée, on appellerait ça dommages collatéraux.
Et après, rien. Néant. Le normal néant des hôpitaux. Le normal néant des médecins. Et ce n'est pas pour quelques exceptions que je changerai d'avis sur la question. Quand la médecine s'humanisera, ce sont les poules qui auront des dents. Il n'y a que mon père pour appeler mes anges.
Ah, voilà mes anges.
Les infirmières. Un reste de séduction, un fond de croyance chrétienne. Au bout de quelques jours, ils lui ont ouvert la bouche pour nettoyer. Il n'avait pas la force de crier. Tout est si atroce et si... Seules lui restaient les larmes.
Et maintenant, c'est ma fille qui est à ma place. C'est elle qui conduit. Et moi qui pleure. Et peut-être que je pleure à cause de ça. Ma fille ne dit rien. Elle ne dit pas...
Ne pleure pas, papa.
C'est la fin, d'une certaine façon. Avec les larmes, c'est la fin. Depuis qu'elle a commencé à me conduire, c'est le début de la fin.
Pour ne pas te fatiguer, papa.
Et je me suis laissé faire. Et maintenant, j'allume la radio.
La chanson, dès que je l'entends, je cesse toute activité. Et c'est lui qui arrive. C'est sa vie. Sa vie m'arrive. Tout ce que j'ignore de sa vie.
J'en suis là, maintenant. Quelle vie.
Tout ce qui était resté dedans, caché. Tout ce qui a été tu, empêché. Tout ce qu'on ne s'est pas dit sort avec la chanson. Tout ce sentiment retenu, ce foutu sentiment de vie. Et je suis baignée de larmes. C'est ce que font les chansons, les bonnes chansons. And this is a fucking good song.
Et maintenant, ce salopard me fait pleurer. Les hommes au combat, ça ne pleure pas. Alors il faut croire que je vais mourir maintenant. Ma fille dit...
On va se battre, papa.
Mais se battre contre qui ? Je ne vois pas l'ennemi.
Il disait tout le temps...
Je me suis battu sur 5 continents.
Cette phrase m'énervait. Ça ne voulait rien dire. Je me suis battu sur 5 continents. Je ne réalisais pas l'énormité de la phrase. Je ne voulais pas entendre. Je ne partageais pas. La fierté et l'honneur de l'armée, je ne partage pas, papa.
L'ennemi, je le regardais en face. Je n'avais pas peur. Où est l'ennemi, si l'ennemi maintenant c'est moi ?
Oui, l'ennemi c'est toi, ça a toujours été toi.
Putain de voix, Il chantait comme un dieu, ce type. Je sifflais ses airs dans la Jeep. J'étais jeune, j'étais beau, j'étais amoureux, c'était la guerre, j'étais heureux.
Mettons que j'entende la fin de cette phrase, mettons que j'en souligne le putain d'oxymore, papa.
Je libérais la France avec les Américains. La voix nous accompagnait. C'est comme ça qu'on l'appelait, la voix.
La voix, j'en ai rien à foutre. C'est de toi que j'en ai à foutre. De toi, je me suis battue sur 5 continents, de ton putain de trou, dans ton putain de palais.
Tu as entendu cette voix ? Une voix en or. Ce type a un trésor dans la gorge.
Et toi, un trou. Et maintenant, il dit ça.
Ce type a une voix en or.
Moi, je trouvais que c'était une voix bien propre, qui articulait bien proprement chaque mot, chaque phrase. On comprenait tout. Une voix de nœud papillon. Mon père ne comprenait pas grand-chose. Il ne parlait pas l'anglais. Il savait juste que la plupart des chansons parlaient d'amour.
Si les chansons ne vous offrent pas l'amour, à quoi bon ?
C'était la voix d'or de l'amour.
C'était la bande-son de la guerre. Et maintenant, il allume la radio et on entend la voix.
Quand elle était petite, on chantait dans la voiture avec ma fille. On chantait Noël Blanc. Vous avez déjà entendu Noël Blanc ? Oh ! Quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent. Noël, mon beau rêve blanc.
Même à 10 ans, je ne voyais pas ce qu'il trouvait à cette chanson. Cette chanson était ridicule, aussi ridicule que Petit Papa Noël, chanté aussi par ce chanteur ridicule qui roulait les airs, Tino Rossi. Et lui, il s'entêtait.
Noël blanc, c'est quand même autre chose.
J'entendais ça à chaque Noël. De toute façon, je détestais Noël. Toutes les familles françaises passent Noël en famille, c'est normal. Toute notre famille française normale se résumait à ma mère, mon père et moi. Et Noël ou pas, c'était sinistrement normal, papa. Mais lui...
Noël blanc, c'est autre chose que votre petit papa Noël.
Notre petit papa Noël français n'était pas le sien. Rien n'était sien de ce qui était français. Mais papa, la voix était un immigré italien. Mais il ne m'écoute pas.
Noël blanc, ça c'est une chanson de Noël. Ça, c'est la voix.
La voix avait 8 ans de plus que mon père. Mon père avait quitté l'Algérie pour aller libérer la France. La voix venait de signer chez Columbia. Mon père avait libéré la France comme les Américains. Alors, il pouvait bien être aussi un Américain. Un Américain plutôt qu'un Français. Les Américains ne lui avaient rien fait. Les Américains ne le trahiraient pas. Les Américains ne feraient pas de lui un exilé, un immigré dans sa propre langue. Tout plutôt qu'un Français.
Les Français, nadin mouk.
Tu jurais en arabe. Quand tu te mettais en colère, c'est l'arabe qui sortait. De toute façon, tu préférais le café arabe, les oranges arabes, le couscous arabe, la lumière arabe, la mer arabe, le soleil arabe. Sauf que tu disais qu'ils étaient français. Ton soleil, tes oranges, ton couscous, ta terre, ton pays, français. Tu vivais en France, sauf que tu étais resté là-bas. La France, c'était ici, et toi tu disais que c'était là-bas. Qui ne se serait pas perdu dans cette allée, dans ce retour ? Il cherchait quelque chose comme des rêves perdus. Étais-tu parti ? Étais-tu arrivé ? Je crois que tu n'es jamais arrivé. Pas arrivé, papa.
Qu'est-ce que tu crois ? En Algérie aussi, on écoutait la voix. On buvait un café en terrasse. Et la voix sortait du jukebox. Et on était les rois du monde. On faisait le meilleur café du monde chez nous.
Chez vous ?
Là-bas.
En Algérie ?
Bah, chez nous, en Algérie. Et l'été, on avait le granité.
Mais tu n'étais pas en Algérie, tu étais en France, tu te battais.
Qu'est-ce que tu racontes ? Et puis, d'ailleurs, je n'étais pas en France. J'étais en Italie, j'étais en Allemagne. La voix était une star internationale. Qu'est-ce que tu crois ? I fall in love.
fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard.
On buvait un granité au citron. Le granité, c'est au citron. Ou c'est pas un granité. Les Français n'y comprennent rien. Nardenmouk. Et on sifflait les filles.
Les Françaises ?
Évidemment, les Françaises, les filles de chez nous.
Chez vous, là-bas.
Évidemment, qu'est-ce que tu veux dire ?
Rien, papa, rien. Tu étais un Français de là-bas.
Là-bas, c'était la France.
Ta France.
Oui.
Et tu écoutais la voix en France.
En France, en Algérie, c'est pareil.
Je ne crois pas, papa.
Et en Indochine, pareil, on sifflait les airs de la voix. Et les filles se retournaient.
Je l'ai toujours entendu siffler, mon père. Il sifflait les airs des chansons « I'm a fool to want you, to want a love that can't be true ». Je reconnais la chanson parce que maintenant, ces chansons, je les connais.
I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you.
Et maintenant, je roule dans cette voiture. C'est ma fille qui conduit. Et je ne peux plus siffler.
Et même quand il a eu son appareil dentaire, après, il n'a plus jamais sifflé. Je n'ai jamais su s'il pouvait et ne voulait plus, ou s'il ne pouvait plus. Les dents y étaient, mais c'était le cœur. Le cœur n'y était plus. Quand les cassettes sont arrivées sur le marché, mon père passait des heures à côté de son poste de radio avec un magnétophone. Il enregistrait les chansons qu'il aimait, puis il les mettait dans le radiocassette de sa voiture, et quand j'empruntais sa voiture, normal, je tombais dessus. C'est comme ça que j'ai entendu « I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. » Et c'est une bien meilleure chanson que la version française. Tu avais raison, petit papa. Mais qu'est-ce qui me prend ? Jamais, jamais de ma vie, je n'ai appelé mon père petit papa. Et maintenant, dans la voiture, la voix passe en continu, et mon père...
C'était aussi un sacré bon acteur. Il a même eu l'Oscar pour Tant qu'il y aura des hommes. Et pourtant, il allait mal à l'époque. Ava ne l'aimait plus.
Ah, nous y voilà, mon papa. Ava Gardner, Ava.
C'était la plus belle femme du siècle. Le plus bel animal du monde.
Bon, je ne vais pas relever cette phrase, papa.
Dans Mogambo, elle était épatante.
Mon père est capable de citer les noms de tous les films américains et de toutes les vedettes qui jouaient dans les films américains. Mon père est un enfant du cinéma américain et de la musique américaine. Oh ! Si tu avais été américain, papa, notre histoire serait devenue une histoire américaine. A fucking American story. Papa, est-ce qu'on aurait eu une vie normale ? Une vie meilleure ? Et maintenant, on était en route pour l'hôpital, mon père allumait la radio et la voix chantait. La voix enchaînait les chansons, mon père était aux anges, il ne pleurait plus, il souriait. Et maintenant, c'était une autre chanson qui passait, une que tu sifflais particulièrement bien.
Stranger in the night. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night rolls through?
Combien de filles as-tu attrapées avec tes airs, avec ton uniforme, tes jambes hâlées, avec ta belle gueule et tes yeux comme un ciel où se renverser? Papa Blue Eyes. Et puis tu as dit...
Écoute, c'est lui. C'est Frankie Blue Eyes.
Non, c'est toi, Blue Eyes. C'est toi, mon papa. Et j'ai commencé à traduire la chanson pour mon père.
Des étrangers dans la nuit, échangeant des regards furtifs, se demandant dans la nuit quelles étaient les chances que nous partagions l'amour avant que la nuit finisse. Et soudain, on a compris.
La voix venait de mourir. On lui rendait hommage. C'était une journée de printemps et mon père a dit...
Il en a terminé, lui.
Et maintenant, c'était une autre chanson qui passait. Une chanson déchirante, cette putain de chanson.
Salut, mon vieux.
A dit mon père de sa sale voix. Sa voix qui glissait sur ses gencives vides. Et il a éteint la radio. Et on est resté silencieux jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Papa,
papa,
je t'aime,
je t'aime.
Mais je ne l'ai pas dit cette fois-là dans la voiture. Je n'ai rien dit. On ne disait rien dans cette famille normale. On ne parlait pas. On ne parlait surtout pas d'amour. Je l'ai laissé entre les mains du dentiste et je suis retournée à la voiture. J'ai mis la radio et j'ai écouté la voix. Il n'était pas aussi beau que mon père. Mais c'était un tombeur, et il avait de l'ambition et du succès. Mon père aussi était un tombeur. En a-t-il profité en Algérie, en Italie, en France, en Allemagne, en Indochine, en Tunisie ? À la fin de sa vie, il disait
« Je n'ai jamais su garder une femme. »
Et il était triste, car tout est si atroce et solitaire. Il était seul et malade. Une bouche. Voilà, papa. Tu étais une bouche où ton histoire a pourri.
Et maintenant ?
Tu as fait rentrer l'ennemi dans ton palais et ton palais a pourri.
Non, c'est De Gaulle.
Pardon ?
C'est De Gaulle qui a fait entrer l'ennemi. Nous, on était chez nous.
C'est vous qui êtes entré chez eux.
De Gaulle a tout pourri. Même l'armée, à la fin, était pourrie. Vous m'avez compris ? La bouche pourrie, c'était De Gaulle.
La politique. Mon père ne parlait que de ça. La politique. Il parlait de politique parce qu'il ne pouvait pas parler d'amour.
Mais toi, je t'aimais d'amour. Je t'aimais d'amour. Et je ne te l'ai pas dit.
C'était une famille normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Ai-je jamais entendu un mot d'amour dans ta bouche, papa ? Tu avais renoncé à l'amour. C'est pour ça que les familles s'engueulent. Parce que les familles ne sont pas capables de parler d'amour. Les familles parlent de politique. Tous les règlements de compte en famille se passent autour de la politique. Tu en voulais à mort à ta femme de ne pas vivre une histoire d'amour. Tu t'engueulais à mort avec elle pour des histoires de politique.
Parce qu'elle était communiste.
Et toi, anti-gaulliste.
Parce qu'elle était pour l'indépendance, cette foutaise politique-là.
Et toi, tu étais pour ton indépendance, mon papa. Une histoire française, normalement française. Et si on avait eu une histoire américaine, est-ce que tu aurais voté Obama ? Sans doute pas, papa. Mais Trump, papa, tu n'aurais pas voté Trump.
C'est rigolo, jamais.
À la fin, tu ne votais même plus Le Pen.
Bah, tous des rigolos, tous des pourris.
Toi et moi, politiquement, papa, ça ne le faisait pas. On s'est engueulés quelquefois.
Tu as laissé tomber.
On s'aimait trop pour s'engueuler.
Et maintenant, la chanson déchirante. La chanson que tu préférais. La chanson que tu savais par cœur, en entier. Et que je sais par cœur, en entier.
And now, the end is near. And so I fade. The final curtain.
Et je vois que tu pleures.
Si les chansons ne voudraient pas l'amour, alors qui vous le donnera ?
Et maintenant, la fin est proche. Alors, je fais face au rideau final. Maintenant, dans le fauteuil du dentiste, la bouche ouverte, je ferme les yeux et je vois le fond de mon palais dévasté. Ma jeunesse dans les rues de Phnom Penh, appuyée sur ma Jeep, je souriais. une vie normale. Sur le point de me marier, de tout abandonner, de laisser mon royaume oriental, mes pépés orientales, comme j'avais laissé ma Gretchen sur les rives du Rhin.
Lui le français, elle l'allemande, Liselotte, son unique amour. Et si tu avais eu une histoire allemande, une vie meilleure, tu serais celui qui n'est pas mon papa. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. But more, much more than this, I did it my way.
Est-ce que j'ai fait les choses à ma façon? Non. Alors quand cette chanson passe, les coutures craquent.
Et tu pleures. Et la chanson déchire le silence entre nous. La chanson déchire l'habitacle de la Clio et l'autoroute qui nous conduit à l'hôpital. La chanson nous déchire. I've loved and cried, I've had my fear, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing.
Je trouve ça tellement...
Tellement quoi?
Tellement pas...
Papa.
Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not the ricochets. I took the blows and did it my way.
Et maintenant, la radio se souvient. Frank Sinatra à la tête du Hit Parade à 78 ans. Et tu éteins la radio et tu dis...
Salut, mon vieux.
Et maintenant, je me souviens. C'est le mois de janvier. L'année de tes 78 ans. Et tu meurs. Papa. Tu meurs. Un matin de janvier, tu es sorti dans le jardin tailler les roses. Tu n'as plus de palais. Tu n'as plus de poumons. Il fait un soleil parfait. Un soleil comme là-bas. Un soleil qui déchire.
Thank you.
3. This is not the end. Parce que la vie n'a rien d'autre que la vie. Que la mort échoue à... Une femme, un homme entrent dans l'histoire, en sont rejetés. À un moment, cette pièce devrait aboutir à quelque chose qui ressemble à la beauté, au pardon. Mais je ne sais pas comment faire. Perdu. Dans la foule, perdu. De temps en temps, les génies témoignent. Paul Celan se jette dans la Seine. Ingeborg Bachmann brûle vive dans sa chambre d'hôtel à Rome. Marina Tsetayeva se pend à Yela Bouga en Tatarie. À Londres, Sylvia Plath met sa tête dans le four. Elle cherchait quelque chose comme des rêves perdus. Janis Joplin meurt d'une overdose à l'hôtel Chelsea à New York. Nina Simone meurt malade, pauvre, ignorée de tous, à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. Viens que je te dépouille. Ton travail, ta maison, ton amour, ton nom. Viens que je dévore tout. Que de toi ne reste que dignité et monnaie souillée sur le trottoir. Dans les morgues, les médecins nous reconnaîtront à la grosseur inusitée de nos cœurs. This is the end. This is not the end. En quel temps vivons-nous? En fuite et en urgence. Dans la forêt, la nôtre, les questions mortes recouvrent le bruit des pas. Ne t'enfuis pas. Il n'y a plus de contrée inconnue, à l'abri, silencieuse. Laisse l'idée de la beauté assoiffer tes lèvres. Ne t'enfuis pas, tu es pisté. D'ailleurs, les forêts brûlent. Les caméras ne brûlent pas. Laisse l'espoir de l'espoir déchirer tes lèvres. Laisse l'avenir derrière toi. Une scène d'accouchement et de meurtre.
Paul Gauguin meurt seul sur une île du Pacifique. Vincent Van Gogh se coupe l'oreille. Amedeo Modigliani monnaie ses toiles pour subsister. Éric Satie, dans son studio d'Arcueil, accueille la petite fille aux grands yeux verts. C'est comme ça qu'il appelle la misère.
La misère, la mort, quel paradis! C'est un arc électrique qui brûle. Viens maintenant, viens que je te crucifie, que je te coupe le cou. Sauf qui peut, croyance, héritage, tradition, identité, reproduction. La peur nous fait croire, et quelques autres raisons. Le monde dont il avait voulu profiter avait une gigantesque fissure. Un jour, apprends que le cancer squatte ton sein, puis tes os, puis ta cage thoracique. Ne cesse jamais d'apprendre. Et pense, écrire ne m'a pas sauvé. C'était donc ça? Tu voulais depuis toujours te sauver, t'enfuir, courir, écrire? Il lui semblait que quelque chose était à ses trousses, quelque chose d'effrayant qui devait la rejoindre. On se retrouve dans une forêt obscure. On dit « on ». Il n'y a pas de « nous » qui porte la mémoire. Reste fragile, vulnérable. Quelque chose était à ses trousses. La phrase entre dans le corps, cogne. La vie te la jette par le corps. Alors, la phrase obscure devient claire, si claire. Il entendit des voix. Elle vit des lumières. Ça devint plus léger. Le monde s'enfonce, se fend, crame, explose, au choix. Et chacun zézeille, je veux survivre. Dis que ce n'est pas de ma faute, si je laisse tout en l'état, si je perds mes forces et que je ne suis plus là pour toi, plus là du tout. Et le père pleure et dit, j'en suis là maintenant, quelle vie. Il cherchait quelque chose comme des rêves perdus. N'écris pas pour les rêves perdus, te sauver, t'enfuir. Ne pleure pas, le monde aussi est en larmes. Il fait un soleil parfait dans le ciel uniforme, un soleil uniformément gris et Parfait.
Robert Musil a 44 ans. Il commence L'homme sans qualité. 14 ans plus tard, il quitte l'Autriche, se réfugie à Genève, vit de peu, écrit toujours L'homme sans qualité. 4 ans plus tard, emporté par une congestion cérébrale, il laisse L'homme sans qualité inachevé.
Ce qui importe, c'est l'énergie passionnée de la pensée, un sentiment de vie et de beauté. Je sais pas comment faire. La vie n'a rien d'autre que la vie, pas de vitamines, pas de sucre ajouté. Les poètes, dont on dit qu'ils nous donnent la réalité, n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la réalité, mais ils sont malgré tout plus supportables que ceux qui veulent la transfigurer. La tâche est plus harassante, plus prosaïque. S'en alla, comme Lens, par la montagne. Et c'était le silence dans la montagne, les combats perdus, les espoirs déçus, la pensée de la grande catastrophe, un sentiment d'horreur globale qui en appelle au salut. Et maintenant, le père éteint la radio et dit « Salut !» et meurt. N'écris pas pour le salut. Le salut en appelle aux larmes, les caméras sont allumées. Ne pleure pas, donne tes larmes, écris. Os et prose, donne toute ta faiblesse. Écrit, c'est le sentiment de vie, c'est ça le sentiment de vie. Sinon tout est si, et si, et si. Ne sauve de rien, ni ne dure le refuge. Le pasteur Oberlin livre Lens. Le pasteur Oberlin n'est pas à la hauteur. Quant à Dieu et capitalisme, un bastion de violence, a place of force. Pas après pas. Le 20 janvier 1789, Lens marche dans la montagne. This is not the end. Le soleil taille des cristaux dans la neige légère. La beauté n'a pas d'image, elle a de l'imagination. Le plus beau compliment du père à sa fille. Ma fille écrit des histoires, elle a beaucoup d'imagination. Dis merci. Pourquoi quand on écrit, on ne dit jamais merci? De l'imagination. Les gens, mots misérables et grands, en ont. La politique n'en a pas. Lens traverse la montagne, la Suisse, l'Alsace, une vallée des Vosges. J'exige dans toute chose une possibilité d'existence. Et puis c'est tout. And now, the end is... C'est tout. Tout est normal. Une histoire normale. Un capitalisme normal. Une destruction normale, un pouvoir normal, un monde normal, une gigantesque fissure. N'écris pas pour réparer, une telle quantité d'inacceptables. N'écris pas au passé. N'écris pas au futur. Aucune phrase n'a perdu la parole, seulement un trou de mots, un vide. Vois toutes les syllabes qui attendent autour, faibles, vulnérables. N'écris pas pour quelques-uns, n'écris pas pour tous, n'écris pas en général. Dis-le, Falk, ou qui que tu sois. Une dernière fois, dis que ce n'est pas de ma faute si je laisse tout en l'état, si je perds mes forces et que je ne suis plus là pour toi, plus là du tout. Dis juste cette phrase et nous ne serons pas sauvés. À un moment, cette pièce devrait aboutir à quelque chose qui ressemble à la beauté, au... Mais je ne sais pas comment faire. Écris.
César et Pavese se donnent la mort dans une chambre d'hôtel à Turin. Daniel Colobert se tue dans un hôtel de la rue Dauphine à Paris le jour de ses 38 ans.
On ne meurt pas, on est tué. Irruption, interruption. Écris la sécession. Os et prose en sécession. Le ciel se voile, les mers puent, les glaciers suffoquent, l'air se consume. Qu'est-ce donc qui on nous ment? Assassine, vol, marchandise, médiation étatique, illusion démocratique, écrit. Œil crevé, tête trouée, jambes brisées, infirmité permanente. Froid, froid, mort. Il s'arracha de sa place et dévala le versant. Il était seul. Tout seul. L'univers à ses yeux était couvert de blessures. Lens marche à travers la montagne. La forêt se secoue au-dessus de lui. Dit qu'il restera quelques phrases. Un peu parla dans le silence. Un peu se tut. Un peu alla son chemin. Quelques phrases et la tension d'y arriver. Comme Lens, On est atteint. Les caméras sont éteintes. Qui bénira cette atteinte? Je ne parle pas de l'eau poisseuse. On nous pisse dessus. Cette faille possible, cette gigantesque fissure contre le fatalisme atroce de l'histoire. Os et prose, atteinte de mélancolie. Écrit. Qui prononce encore ce mot aujourd'hui, mélancolie? On lui préfère dépression. Un nom de fleur penchée au milieu des falaises. Un nom pour Émilie.
Le sommeil vient sans nul désir d'en réarmer mon cœur meurtri, sinon du sommeil de la mort et son oubli.
Un nom pour Émilie, une autre.
Je me dis, la terre est brève, l'angoisse absolue, nombreux les meurtris, et puis après...
Écrit. S'en alla, comme Lens, par la montagne. Lens traverse la neige vers quelqu'un. Nous traversons la neige vers quelqu'un. Mets tes pas dans les pas de Lens. Vas-y, fais la passe. Lens vient parler à quelqu'un atteint de mélancolie. C'est là que ça se passe. Ventre, cœur, poumon, os. Lens traverse la neige et vient parler à quelqu'un. Il n'y a qu'un sens, c'est celui-là. Toute ta faiblesse abandonne. Écrit. Ce qui fait avancer au milieu de la neige dans le désert torride. Seulement, parfois, ça lui était désagréable qu'il ne puisse pas marcher sur la tête. Écris que tu marches sur la tête au milieu de la neige dans le désert. Écris que tu viens parler à quelqu'un. Écris les hypothèses possibles. Risque tes mots, tes pas, serviront peut-être à quelques-uns. Tant de mots dont la forme est perdue, trouve la forme de tes mots. Écris. Ne fournis pas de preuves, ni preuves ni raison. Lens marche à travers la montagne seul. Seul à passer les montagnes, la forêt, ventre, cœur, poumon, os. D'où vient alors encore ce sentiment de vie, ce putain de sentiment de vie, tout cet impur, tout ce merveilleux sentiment de vie, un sentiment de vie qui brûle les lèvres. Ne te sauve pas, ne me sauve pas. Écris. L'écriture n'éprouve aucun scrupule par rapport au désastre dont elle procède. Clic, aligne des lignes. Clic, il aurait aimé courir après le soleil. Cours après le soleil. Écrit. Lens est-il un sujet politique? Clic, il n'y a pas de sujet politique. Nous sommes nos propres sujets politiques. C'est sale et ça fait mal. Écris avec ce qui est sale, ce qui fait mal. Clic, écris dans le monde de l'ennemi. Écris avec ton propre sale ennemi, ta propre sale ennemie. Fais reculer la peur. Clic, écris, ne négocie pas. Clic, passe la forêt, la montagne. Écris une autre fin que la fin qu'on met en place à notre place. Écris que on, c'est nous, os et prose. Clic, clic, la vie n'a rien d'autre. Écris sans raison, pas besoin de raison, il y a trop de raisons. Écris, passe. Écris avec Lens, avec le trop, avec l'excès de Lens. Écris, c'est logique. Révolte, irruption, sécession. Écris, traverse la montagne. Viens parler à quelqu'un. Donne toute ta, quelque chose qui ressemble à la beauté. Oh, dis qu'il restera quelques phrases, même s'il y a là comme, écris-le encore, un désastre. Écris avant que la nuit finisse. Écris pas à pas. Écris, tel est ton pardon. Écris d'amour et de mélancolie. Est-ce que c'est sans rapport? Écris les électrocutions du deuil.
Virginia Woolf remplit ses poches de pierre et entre dans la rivière Ouse. Sarah Kane se pend avec ses lacets dans la salle de bain de l'hôpital London's King College.
Écris. Il avait perdu. La fin de sa phrase, ça lui saisit le cœur. Écris. Père, la fin de ta phrase. Saisis-le.
Thank you. Un sentiment de vie, de Claudine Galéa. Avec Marie-Sophie Ferdan, François Château et Johannes Hamm. Avec des emprunts à Falk Richter, Georges Büchner, Jean-Frédéric Oberlin, Charles Baudelaire, Paul Celan, Marina Tsvetaeva, Ingeborg Bachmann, Émilie Brontë, Emily Dickinson, Robert Musil, Sylvia Plath, Jacques Rancière, Hirokazu Koreeda, Anne Carson, Elisabeth Bishop, Dominique Fourcade. Musique originale, François Donato. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Étienne Collin. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laurence Courtois. Un sentiment de vie est publié aux éditions Espace 34.